Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie, de la finance et des entreprises et de l'inquiétude chez Nissan, avec une alerte concernant des airbags défectueux sur plusieurs de ces modèles entre 2002 et 2006. C'est tout à fait important parce que cela veut dire qu'aujourd'hui, sur les procédures industrielles, et ça c'est quelque chose qui va parler à tous les fabricants d'automobiles et surtout sur les nouveaux modèles, les voitures de type Tesla qui sont électriques et tout informatisées, aujourd'hui on a un phénomène de rappel. Alors là on est sur des airbags qui sont défectueux, on peut se souvenir que des voitures électriques aussi ont été rappelé en raison de logiciels sur le freinage qui était défectueux. Donc cela veut dire que ce mécanisme qui est celui du rappel est en train de se généraliser, ce qui induit des coûts qui sont lourds pour les firmes et qui seront forcément répercutés sur le prix des véhicules qui a considérablement augmenté ces dernières années. L'achat neuf est de plus en plus cher et ce vers quoi se tournent de plus en plus les consommateurs, c'est le marché de l'occasion. La firme américaine Boeing a soumis un plan d'action complet pour améliorer son processus de production du 737 MAX 9. Il y a aujourd'hui toujours des inquiétudes concernant la fiabilité, la chaîne de production, la façon dont cet avion n'a pas été pensé, puisque le 737 MAX 9 n'est pas un avion récent, mais il y a toujours cette problématique de la fiabilité qui aujourd'hui met les chaînes de production face à leurs responsabilités. Avec cette période d'incertitude, mais ça c'est vrai pour l'Europe, les États-Unis, mais aussi le Maghreb, cette période d'incertitude qui est celle des moissons agricoles, est-ce que ces moissons vont bien se passer? Est-ce qu'il y aura de la nourriture pour tout le monde? C'est sûr que s'il y a de la tension sur les capacités agricoles de tous ces ensembles géopolitiques, eh bien cela peut impacter les prix, les salaires, les protections sociales. C'est un effet de chaîne, un effet papillon, dit-on. Justement, sur cette question agricole, aujourd'hui, il y a une sorte de dilemme entre, d'une part, est-ce qu'il faut se tourner vers l'agriculture intensive et nourrir tout le monde, ou est-ce qu'il faut être sur du qualitatif, par exemple sur du bio, mais nourrir moins de monde à des prix qui sont plus élevés. La question de l'agriculture bio se pose de façon tout à fait récurrente au Maghreb et au Maroc aussi, de façon tout à fait particulière et intéressante. On va en parler avec notre invité dans Economia, c'est Jean-Paul Hébrard, spécialiste de l'agriculture, qui est aussi le producteur de l'émission Power Boost, qui est consacrée aux questions agricoles. Et Jean-Paul Hébrard, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question du bio au Maghreb, souvent d'un point de vue strictement économique et financier, on se dit mais est-ce que c'est vraiment réaliste et lucide de l'envisager aujourd'hui dans le Maroc de cette année 2024?
Alors, avant de donner des éléments positifs, moi je suis quand même dans le même constat, c'est-à-dire que le bio c'est quand même compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui, et si on regarde ce qui se passe en France, il y a eu quand même des déconvenues, puisque pour la première fois, on a eu quand même le marché du bio qui a reculé. Donc, s'il faut se convaincre de dire le bio c'est possible, oui c'est possible parce que ça va dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire on va aller de plus en plus vers une alimentation avec moins de produits chimiques et de meilleure qualité. Oui c'est possible parce que les connaissances en agronomie vont permettre de pouvoir gérer peut-être de façon moins coûteuse, peut-être de façon plus efficace les itinéraires culturaux pour pouvoir produire en bio de façon plus régulière avec de meilleurs rendements. Mais oui c'est quand même compliqué aujourd'hui de s'installer ou de développer une activité bio.
Alors, qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que c'est la conceptualisation de l'exploitation agricole qui doit être créée? C'est de trouver de l'argent? C'est de trouver des compétences pour mener à bien le projet? Qu'est-ce qui est compliqué, finalement, dans le bio?
Tout est compliqué dans le bio, de A jusqu'à Z. C'est-à-dire, si on démarre déjà sur l'aspect technique, au champ, dès le départ, c'est compliqué sur le plan technique. Pourquoi? Parce qu'on s'enlève tous les filets de sécurité qui ont été construits au fil des décennies passées. Hein. Par exemple, employer des insecticides, des fongicides, ça permettait de sécuriser face à l'appétit des ravageurs ou des maladies. Bah, on enlève tous les filets. Donc, c'est vrai qu'on avance sur une ligne de crête peut-être beaucoup plus incertaine. C'est compliqué aussi sur la vente. C'est-à-dire, si on regarde en France, ce qui marche, c'est le bio aussi à vente directe. Dès que l'on passe par les circuits de la grande consommation, de la grande, des EMS, pardon, ouais. Dans ce cas-là, on se retrouve avec une captation de la valeur ajoutée qui est faite par la GMS. Donc, on a les difficultés de pouvoir vendre à un prix suffisant pour couvrir les coûts liés à la production bio, qui est plus onéreuse. Et puis, c'est compliqué dans le temps, parce qu'on a une irrégularité selon les années, et ça nécessite le fait de faire de la contractualisation, c'est-à-dire qu'il faut être capable de signer des contrats à des acheteurs qui fassent que même les années où il y a beaucoup de bio, ou même les années où il y a peu de bio, on arrive l'un dans l'autre à avoir un revenu à peu près constant.
Mais est-ce qu'on a une idée des secteurs? Parce que l'agriculture est un monde dans le monde, hein, c'est extrêmement vaste, il y a vraiment, en plus ça bouge, on va chercher des semences anciennes, en plus en fonction des régions, des ressources en eau, on va plutôt travailler sur tel ou tel agrume par exemple. Est-ce que l'on sait les secteurs d'activité dans une exploitation agricole où on peut se dire, bon, si je démarre en bio, sur ce marché-là, je ne prends pas trop de risques? Ou est-ce que toutes les activités liées au bio sont risquées?
Disons qu'il faut plutôt s'orienter vers les marchés qui se développent. C'est-à-dire les marchés qui se développent, c'est là où ça sera le plus facile de pouvoir faire son trou, entre guillemets, sur le plan économique, ouais. Premier point. Et puis, c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont plus habitués à la bio que d'autres. Si on regarde, par exemple, on prend un pays comme la France, on a 40% des produits bio, c'est des légumes secs. Donc les légumes secs, c'est vrai, on a l'impression que ça se vend plutôt bien en bio. Ouais. On a 20%, c'est la vigne, la viticulture, le vin bio, trouve son marché, et 17%, troisième segment, ce sont les fruits. Et il y a un secteur important pour le Maroc, c'est tout ce qui est plantes aromatiques, où là aussi, on sent qu'on a des acheteurs qui recherchent du bio.
Ok. Est-ce que, si on s'en réfère à ce que vous venez de nous dire, Jean-Paul Hébrard, qu'on soit au Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, peu importe, finalement, le premier élément, si je vous suis bien dans votre raisonnement, c'est l'acquisition d'informations, c'est la formation à cette activité très, très spécifique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un défi absolument impossible? Est-ce qu'il faut se dire, je vais faire de l'auto-formation sur Internet? Est-ce qu'il y a des infrastructures d'éducation qui peuvent permettre à passer cette première étape? D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment déjà savoir ce qu'on va faire et comment on va le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ces informations sont disponibles?
Alors, si on veut démarrer par le bio, oui, il faut être un technicien, c'est-à-dire qu'il faut être très fort sur le plan technique. Alors après, la question, c'est de dire, est-ce qu'il faut démarrer par le bio ou pas? Ça, c'est une vraie question. Deuxième point, il faut se former. Et effectivement, il y a cette formation qui existe aujourd'hui dans les lycées de formation liés à l'agriculture. Je pense que c'est la formation qui doit être faite dès le départ dans des établissements agricoles, mais qui peut être aussi assurée par la suite par des groupes d'agriculteurs travaillant déjà dans le bio qui peuvent partager les enseignements, d'autant plus si on se trouve dans les mêmes conditions pédoclimatiques, mêmes conditions de sol et de climat.
C'est intéressant ce que vous disiez à l'instant, c'est pas sûr qu'il faille commencer par le bio, parce qu'en fait ça voudrait dire que, je vous taquine Jean-Paul Hébrard, mais c'est vrai que vous nous dites d'abord, il faut polluer un petit peu et ensuite on fait du bio. Enfin, je vous taquine, hein, mais c'est étrange comme raisonnement. Et expliquez-nous quelle est votre pensée, Jean-Paul Hébrard.
C'est pour ça que je prenais quelques précautions d'usage.
C'est très bien.
Effectivement, quand on fait du bio, c'est par conviction. Donc, on n'a pas envie de démarrer par les produits phytosanitaires pour passer au bio après. Mmh. Cela dit, il y a des agriculteurs qui sont déjà en conventionnels, c'est-à-dire qu'ils appliquent les techniques comme on les a appliquées depuis des décennies, qui se convertissent au bio. Alors déjà pour eux, c'est pas facile, alors qu'ils connaissent toutes les techniques de base. Mais il est aussi possible, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui s'installent en bio directement parce que ils ont envie de démarrer en bio et on peut les comprendre.
D'accord, mais ça reste quelque chose de difficile. Alors maintenant, quand on se tourne vers le monde bancaire, parce qu'il faut aller chercher de l'argent, alors vous êtes toujours sur un... On a déjà eu le plaisir de vous entendre à plusieurs reprises. Jean-Paul Hébrard, on peut dire que vous êtes un homme, un analyste qui ne pousse pas à la consommation, au surendettement des exploitations agricoles de telle façon à ce qu'elles soient vivables le mieux possible et que les agriculteurs n'aient pas à rembourser des emprunts qui vont les étrangler d'année en année. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut un petit peu de sous pour démarrer. Aujourd'hui, vous rentrez dans une banque, vous dites « bonjour, je vais faire du bio ». On ouvre grand les yeux en se demandant « mais qui est cette Uluberlu ?» On vous prend avec sérieux ou au contraire, le banquier ne dit « je ne veux pas mettre d'argent là-dedans, je vais tout perdre ». Comment ça se passe finalement ?
Jusqu'à il y a 2 ans, le bio était un marché qui se développait régulièrement, ouais. D'année en année, 3% par an, de progression assez régulière, à la fois du côté du marché et à la fois du côté de la conversion des terres à l'agriculture biologique. Donc tout allait bien, on avait l'impression que le bio continuerait de se développer, donc pour un banquier, c'est plutôt rassurant d'être sur un marché croissant. Le banquier peut être aussi totalement satisfait parce que comme il y a un chiffre d'affaires plus élevé puisque les produits bio se rendent plus chers, effectivement, ça pouvait être rassurant. Le seul problème, c'est que comme souvent, les entreprises n'ayant pas forcément d'éthique, voyant qu'il y a des revenus qui sont plus importants, ben, les fournisseurs de l'agriculture ont aussi développé des matériels pour aller capter cette valeur ajoutée. Ainsi, si vous voulez faire du bio aujourd'hui pour désherber, vous ne pouvez pas utiliser, bien sûr, les produits chimiques. Vous devez utiliser des herbes. Et les herbes, aujourd'hui, ça coûte très, très cher. Alors, il y a des herbes très simples qui ne coûtent pas cher, mais aujourd'hui, bon, on propose de plus en plus d'options de caméras, de systèmes GPS, même sur les herbes, qui font que dans les grands modèles, pour les grandes surfaces et pour les grandes largeurs, on peut avoir des herbes qui coûtent 50, 60, 70 000 euros.
Oui, mais ça fait effectivement froid dans l'eau. Parce qu'en plus, je suppose que quand vous êtes... Alors déjà, l'activité, elle est compliquée, mais réussir à calculer l'engagement financier pour que ça fonctionne malgré tout, que ça fonctionne bien, sans pour autant se mettre en situation impossible ou même aussi être tenté par la consommation. Parce que c'est vrai aussi que le monde agricole et vous-même, alors là, pour le coup, vous êtes vraiment bien placé, Jean-Paul Lebrun, pour nous en parler. C'est vrai que c'est vraiment un monde de mécanique, un monde de machines. On vous fait rêver, on vous vend des rendements prévisionnels, on vous vend du beau, on vous vend du facile, on vous vend du confortable, du non-bruyant. C'est pas facile aussi de ne pas céder à la tentation du consumer.
Et ça, c'est un véritable problème. Et c'est un véritable problème bien au-delà du bio, pour l'agriculture en général et pour tout l'approvisionnement des consommateurs. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le prix d'achat des fruits, des légumes ne cesse d'augmenter, que tout coûte cher aujourd'hui, aussi parce que les coûts de production coûtent cher, et en particulier dans le bio. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des consommateurs qui peuvent être très versatiles. On l'a vu par exemple en Europe, avec l'inflation qu'il y a pu avoir, il y a eu un retournement de tendance. C'est-à-dire que les consommateurs qui nous semblaient très intéressés par le bio ont dit stop, le bio c'est trop cher, je reviens à des produits, peut-être de force d'ailleurs, moins chers compte tenu de l'inflation. Et c'est pour ça que le bio est en crise aujourd'hui, c'est parce que la demande n'a pas progressé comme prévu, alors que les coûts, eux, ont progressé, ce qui a fait un effet ciseau de prix.
Mais la démarche, malgré tout, d'un point de vue éthique, elle est essentielle. Vous êtes au moins, rassurez-nous sur ce point, on a le sentiment que c'est vraiment, que c'est ce vers quoi il faut tendre. Parce que quand on voit aujourd'hui ce que certaines terres dans certains pays reçoivent en engrais, en mauvaise gestion, en non-respect, va-t-on dire, de notre terre nourricière, c'est ça qui est terrible dans ce que vous nous racontez et qui est passionnant, c'est qu'on se dit, mais c'est malgré tout la voie, c'est ce vers quoi il faut aller, et c'est très difficile d'y aller.
C'est le sens de l'histoire, c'est certain. Il n'y a que des avantages à y aller.
Ouais.
Ça va dans le sens aussi de la souveraineté, parce que souvent, le bio, c'est des circuits courts, c'est des capacités à produire sur place et à vendre sur place. Donc ça va dans le sens de la souveraineté. On sait que la géopolitique aujourd'hui nous pousse à la souveraineté, puisqu'il y a énormément d'engrais, de produits qui circulent dans les bateaux de par le monde. Donc plus on arrivera à faire des productions sans engrais, sans produits, on sera capable peut-être d'assurer une meilleure souveraineté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si le consommateur n'est pas là pour payer, on n'arrive pas à satisfaire l'équation qui permet de pouvoir rémunérer aussi le producteur.
Un mot pour l'élevage, parce que c'est un point qui est très important. Il y a énormément de consommation de poulet, notamment dans nos régions. Le poulet est une volaille qui est très, très populaire, en France aussi. En Europe, c'est quelque chose qui marche très, très fort. Alors, on parle, là, quand on parle de poulet bio, au supermarché, au prix consommateur, au Maroc notamment, le gap est absolument gigantesque. C'est-à-dire qu'un poulet X et un poulet bio, c'est pas du tout le même prix. Alors, on se doute que les prix sont justifiés, mais est-ce qu'il y aurait des moyens de réduire ce gap tarifaire? Parce que entre le normal et le bio, c'est vraiment, ça coûte. Enfin, en plus, auprès de ménages qui en consomment beaucoup et qui n'ont pas forcément des revenus pharaoniques, on se dit, mais où est le juste équilibre finalement?
Alors, l'écart du bio est beaucoup pris aussi par la grande distribution,
hein,
qui a un coefficient multiplicateur qui est très important sur le bio. Et c'est souvent d'ailleurs décrié en disant, attention, il faut au contraire que la grande distribution minore ce coefficient multiplicateur de façon à rendre le bio plus accessible pour ne pas tuer une filière naissante, on peut dire encore naissante, et puis aussi pour permettre d'accéder à une alimentation de qualité. Mais c'est vrai que l'écart aujourd'hui est tellement important, la seule solution viendra d'une politique d'État, c'est-à-dire que pour développer le bio aujourd'hui, il faut un contractualiser, permettre aux producteurs bio d'avoir sur plusieurs années une certitude quelque part de vente avec un niveau de prix donné. Et deuxième point, assurer via les collectivités locales des achats. Par exemple, dans les cantines, s'engager à pouvoir se fournir avec 20% de produits bio et de qualité, comme le veut d'ailleurs une loi qui est passée, si on prend le cas de la France, ce qu'on appelle la loi Egalim, et qui incitait, qui obligeait d'ailleurs, à toutes les collectivités locales à prendre 20% de produits bio, ce qui permettait d'asseoir le développement de la filière. Et paradoxalement, des fois, même les producteurs ne sont pas capables de fournir ce niveau. Donc voilà, on est vraiment un peu dans une position intermédiaire où la demande dans les supermarchés fait défaut à cause de l'inflation, les produits se détournent aussi certains du bio parce qu'ils trouvent que les coûts sont exorbitants sur le plan de la production. Et d'un autre côté, les collectivités locales qui pourraient justement aider au développement, certains assurent un niveau minimum d'achat, d'autres pas. Donc c'est une décision politique avant tout.
Mais juste dans la continuité du bio et du mieux-être, je voudrais qu'on aborde en quelques mots une question que vous connaissez bien aussi, Jean-Paul Hébrard, c'est celle du bien-être animal, de ces animaux que l'on vend à la consommation pour la viande, mais aussi pour la peau. Hein. Il y a tout un tas de déclinaisons qui font partie de la vie quotidienne. Est-ce qu'on avance aujourd'hui sur cette question du bien-être animal? Est-ce que économique... Alors, je suis désolé de dire, c'est une question qui est un peu malvenue, mais est-ce qu'économiquement c'est viable? C'est un peu horrible de dire ça d'ailleurs. Est-ce qu'économiquement c'est viable de bien traiter les animaux? Est-ce que vous qui allez régulièrement dans les exploitations agricoles, est-ce que vous constatez qu'il y a des progrès qui sont faits sur cette question qui est extrêmement sensible?
Alors, il y a des progrès incontestables, c'est-à-dire que aujourd'hui, le bien-être animal est de plus en plus intégré. Alors, ça dépend de quel type de production on parle. Si on parle des volailles, des élevages en batterie, etc., bon, on sent qu'il y a eu des progrès, mais il y a encore des élevages en batterie, et ça représente une part importante de la fourniture de poulets, d'œufs, par exemple. Donc, mais de façon globale, ça évolue. Ça évolue pourquoi? Parce qu'il y a eu de la part donc de l'aval une demande sur ce critère du bien-être animal qui est perçu de façon forte par le consommateur. Hein.
Oui, c'est bien.
Il y a une vraie demande. Donc ça, c'est vrai. Donc aujourd'hui, moi, je dirais que oui, il y a eu un progrès qui est important. Et cette semaine, il y a eu notamment, si on prend le cas de la France, l'ANSES. L'ANSES, c'est un peu l'agence de sécurité sanitaire en France. Et elle a annoncé qu'il faudrait mettre sur tous les produits un indicateur, un peu comme le Nutri-Score avec des lettres A, B, C, D, E, qui permet de noter un peu la qualité alimentaire d'un produit, mais en même temps, il faudrait des lettres qui permettent de dire, ce poulet, il a été élevé dans telles conditions, bonnes conditions de bien-être. Ce qui permet de pouvoir, pour les consommateurs qui font la différence entre les différents indicateurs, de pouvoir choisir celui qui a été élevé dans les meilleures conditions.
Mais là, quand vous parlez, vous évoquez ces points-là, donc on est là, nous sommes vraiment... Notre entretien porte sur l'espace euro-méditerranéen, mais les grands pays de production de bovins, je pense notamment aux États-Unis, ainsi que, en fait, c'est la zone Amérique hein, qui est extrêmement puissante, avec des élevages qui sont absolument pharaoniques. Ce sont des idées qui se transportent outre-Atlantique ou ça reste euro-méditerranéen?
Alors, le bien-être est lié, est corrélé à la qualité de l'élevage, paradoxalement. Hein. Oui. C'est-à-dire que si on a un petit troupeau, on peut mieux s'en occuper que si on doit gérer des dizaines, des centaines d'animaux. Ça semble évident, quoique ça peut aussi se discuter selon le type, mais de façon globale, c'est vrai que c'est plutôt dans les petits élevages où on a l'impression qu'il y a une proximité avec l'animal qui fait que peut-être on va le respecter mieux. Mais cela dit, c'est clair que dans tous les pays, les conditions de bien-être animal ne sont pas du tout les mêmes, les perceptions ne sont pas du tout les mêmes. Si on regarde, par exemple, en Chine, on a des immeubles entiers d'élevage de porcs. Si on va en Ukraine, on a des élevages énormes aujourd'hui de volailles. Vous savez que ça pose problème, d'ailleurs, parce que ces volailles rentrent en Europe avec
des
tarifs douaniers plus bas. Donc, selon les pays, on va avoir des tailles d'élevage bien supérieures à ce qu'on peut rencontrer sous nos espaces, à nous. Donc, la notion de bien-être n'est pas la même.
Mais c'est-à-dire que aujourd'hui, pour produire de la viande en quantité et satisfaire la demande des consommateurs, là je parle juste sur une échelle mondiale, on est obligé de passer par des grands élevages qui font de l'abattage en grande quantité. Est-ce qu'on pourrait, là c'est peut-être un vœu pieux, mais est-ce qu'on pourrait, ce qui serait crédible, d'imaginer des exploitations plus petites, plus respectueuses des animaux et qui soient pour autant viables économiquement ?
Alors, vous savez que le capitalisme a toujours souhaité déléguer à l'entreprise ce que chacun pouvait faire soi-même. Oui. Ça veut dire que pour gagner de la valeur ajoutée, effectivement, toujours écraser de la marge, faire des entreprises plus grandes, être capable de proposer à des prix plus bas. Et on voit qu'on est aujourd'hui quand même à la limite de ce système. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les attentes des consommateurs seraient plutôt d'avoir de petites exploitations, ce qui signifie aussi que quelque part, ils vont devoir payer plus cher leur alimentation. Et comme leur revenu n'est pas extensible, ça veut dire qu'il va falloir peut-être arbitrer entre le poste alimentation qui est bien moins élevé en pourcentage aujourd'hui qu'il n'était il y a quelques décennies, et peut-être d'autres objets, usages, téléphone, voiture, etc., sur lesquels il va falloir peut-être dire stop.
Oui, avec des renouvellements, enfin par exemple sur cette fameuse histoire des smartphones ou des jeans ou même des t-shirts, on en achète. Bon, ça c'est sûr que la qualité. Mais alors, si on reste sur ce schéma-là, des exploitations agricoles plus petites, on revient au tout début de notre entretien, Jean-Paul Lébrun. Est-ce que le paysan, l'exploitant, s'en sort ou pas ?
Oui. Ah, s'il arrive à capter de la valeur ajoutée en vendant lui-même au consommateur.
Ouais, le circuit court, on y revient, ouais.
Voilà, circuit court. C'est-à-dire que, effectivement, si on regarde, par exemple, les exploitations bio en France, pour rester sur le sujet du bio, on a 60 000 exploitations bio en France, ce qui représente, en gros, 14-15% des exploitations françaises. Ben, un tiers de ces 60 000 exploitations, voire même plus, c'est-à-dire 26 000 exploitations, sont en vente directe. Et ce sont ces exploitations qui arrivent aujourd'hui à peu près à s'en tirer avec du bio, malgré la crise du bio.
D'accord. Et aujourd'hui, alors, c'est une question pas piège, mais c'est juste une... En fait, je vous pose la question parce que je sais que vous travaillez sur ces questions-là depuis des années et que vraiment, c'est un secteur que vous connaissez bien. Jean-Paul Lébrun, si demain on vous confiait quelques millions d'euros et si vous deviez monter une entreprise agricole, vous laisseriez tenter par le bio malgré tout, malgré les difficultés et les enjeux que vous nous avez expliqués, racontez-vous, vous auriez malgré tout cette tentation-là ?
Alors oui, parce que je pense que, comme je vous l'ai dit,
c'est le sens de l'histoire. Ouais.
Voilà, si on veut avoir une vision un peu à moyen terme, bon, il faut aller vers cela. Je pense que je m'orienterai vers des productions à valeur ajoutée. Pensons peut-être au vin, pensons aux arbres fruitiers. Donc, j'irai pas sur de la production de masse, où là, le consommateur peut très facilement changer de point de vue parce que la matière première est mélangée avec d'autres matières premières. Enfin, c'est pas du tout pareil pour de la farine ou pour une bouteille de vin. Enfin, la relation consommateur n'est pas la même. Et je consacrerai beaucoup de mon temps à aller chercher la contractualisation avec des collectivités locales ou à développer la vente directe.
Merci Jean-Paul Lébrun, merci pour ces éclairages qui nous laissent espérer le développement économiquement viable d'une agriculture bio au Maroc. On se tourne maintenant vers la réunion ministérielle du 10e forum de coopération sino-arabe qui s'est tenue à Pékin, rencontre importante cette semaine dans un contexte de guerre entre Israël et le Hamas qui a rapproché une fois de plus Pékin et les capitales arabes avec également un volet économique pour ce sommet. On sait que ce qui intéresse les nations arabes dans la relation avec Pékin, ce sont les partages de technologies, notamment en matière d'intelligence artificielle et de robotique. Ceci au moment où certains parlent de découpler leur économie de la Chine. Pékin essaie vraiment en même temps de se rapprocher du monde arabe. Qu'est-ce qu'il en est exactement de la nature de cette relation assez singulière, assez particulière? Je vous propose d'entendre à ce sujet Claudia Astarita, qui est professeure à Sciences Po, Paris, et c'est une spécialiste de la Chine.
Pas seulement avec les pays arabes, la Chine fait ça partout dans le monde. Où il y a une opportunité, la Chine est toujours prête à essayer de la saisir. Et évidemment, les Moyen-Orient, c'est un enjeu important parce que jusqu'à il y a quelques temps, c'était plutôt une région où les Américains étaient dominants, où l'Europe aussi. Et là, la Chine veut commencer à se présenter comme un interlocuteur. Il faut ajouter également que si on parlait jusqu'à il y a 5, 6, 7 ans avec les interlocuteurs arabes, ils disaient que la Chine n'était pas un interlocuteur important pour eux parce qu'elle proposait une manière de faire les choses, de faire la diplomatie, de faire le commerce qui ne convenait pas. Donc, qu'est-ce qui a changé? La Chine a été capable de s'adapter et on voit avec l'intérêt que les pays arabes montrent vis-à-vis des propositions de la Chine qu'évidemment, elle a su apprendre de cette expérience et relancer la relation bilatérale et multilatérale sur des bases différentes.
Voilà, merci. C'est sur ces propos de Claudia Astarita que va s'achever cette nouvelle édition d'Economia. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de la planète économie. Merci à tous et je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.